Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Loïc Dia, préparateur physique et mental, prof de boxe thaï et expert en électrostimulation à Lyon dans le 9e. Il va nous expliquer comment il a démarré dans le métier. Il va nous partager un moment compliqué de sa vie où pendant 8 mois, il a vécu un véritable enfer. Le jour de ses 30 ans, on lui vole 20 000 euros de matériel. Ensuite, il se fait virer du studio où il exerçait. Il est en galère d'argent pendant de nombreux mois et obligé de manger midi soir des repas à moins de 2 euros. Mais Loïc sait rebondir pour aujourd'hui avoir un super studio et un business florissant. On a parlé de plein de choses passionnantes avec lui, notamment le nouveau métier de coach, le coaching holistique, comment démarrer un studio de coaching, comment s'associer, pourquoi le mindset est-il primordial quand on est indépendant ou entrepreneur. Je vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Loïc Dia. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Donc là, je suis avec Loïc Dia, qui est coach, formateur et conférencier. Donc j'avais eu l'occasion de l'interviewer. En tout cas, ça fait longtemps qu'on s'était perdu de vue un petit peu. Et donc, ça va être l'occasion de voir un petit peu ton parcours. Qu'est-ce que tu as mis en place du coup ces dernières années? Donc avant toute chose, Loïc, est-ce que tu pourrais du coup te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Loïc Dia, j'ai 33 ans et je suis… Alors, j'aime pas dire je suis coach sportif parce que je trouve que c'est trop réducteur et j'ai toujours un peu de mal à me qualifier, en fait, de dire qu'est-ce que je suis exactement.
J'ai vu préparateur physique dans tes différents sites.
Ouais, en fait, à la base, je suis préparateur physique. J'ai fait des études là-dedans. Mais en fait, j'ai tellement mis de nouvelles choses autour de ce métier-là et que quand je dois me présenter, je ne dis pas coach sportif. J'aime bien maintenant dire, soit je dis je suis coach holistique et entrepreneur dans le sport, soit je dis dans l'autre sens, entrepreneur dans le sport et coach holistique.
Yes, voilà. On y reviendra parce que moi, ça me parle beaucoup, le coaching holistique et j'avais déjà fait des interventions et des formations là-dessus. Donc, on aura l'occasion d'en discuter. Donc, du coup, ouais. tu es situé du côté de Lyon.
Oui, c'est ça. C'est, j'ai mon centre qui est sur Lyon 9e. Et en gros, les interventions, je fais des interventions sur tout Lyon. Voilà, des interventions sur Lyon. Et sinon, mon centre de coaching, il est, donc, pour ceux qui connaissent, Lyon 9e à Gorges-le-Loup.
OK. Voilà. Donc toi aussi, tu fais partie un peu des vieux dans le coaching, parce que quand on passe 3 ans, tu vois, dans le coaching sportif, on est considéré un peu comme vieux. En tout cas, on n'a pas disparu comme, on va dire, 80-90% des coachs qui se lancent. Ça fait combien de temps que tu as démarré?
Putain, si tu me dis ça, je suis un papy. Alors, ça fait 8 ans que j'ai commencé. Tu sais quoi, j'ai même du mal à me situer quand est-ce que j'ai commencé. Je crois bien que c'était en 2013. Mais je suis plus trop sûr. Donc ouais, moi je dis ça fait 8 ans que j'ai commencé. Donc ouais, si 3 ans je suis un vieux, putain, 8 ans, ouais. je suis un dinosaure.
C'est ça. Et j'aime bien démarrer, essayer de comprendre et de revenir en arrière, parce que souvent quand on avance d'année en année, tu vois, on oublie un petit peu le démarrage. Pourquoi t'es arrivé dans le coaching, toi? Enfin, comment t'es arrivé dans le coaching sportif?
Alors, moi, j'y suis arrivé par un biais un peu décalé par rapport à tout ce qui se fait actuellement. C'est-à-dire, il faut revenir en arrière. Il faut revenir il y a 12 ans en arrière et même plus, il y a 15 ans en arrière. En fait, j'étais au lycée, puis je savais pas trop, quoi faire. Et il s'est avéré qu'en fait, j'avais un très bon feeling avec notre prof de PS qui avait vraiment une super vision des choses. Il amenait des cours qui étaient vraiment excellents. Et on aimait tellement ces cours qu'on arrivait d'ailleurs souvent en retard au cours d'après parce qu'on restait plus longtemps. Et je commençais un petit peu à donner des cours. Donc à l'époque, je faisais du tennis de table. Je commençais à donner des cours aux enfants. Et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas faire prof de PS? Le prof, j'aimais bien le fait de donner des petits cours. Donc voilà, sachant que j'avais des notes moyennes, mais dans pas mal de matières. Donc, notes moyennes en maths, notes moyennes en physique, mais aussi notes moyennes à l'écrit en éco, tout ça. Je me dis, voilà, vas-y, je vais partir là-dedans. Et là, ça a été compliqué. Ah, la première année en STAPS, tu prends une douche froide monumentale parce que tu ne t'attends pas du tout à des cours comme ça. Et tu es lâché dans ton amphi et tu ne sais pas trop ce qui se passe. Et en fait, j'ai bossé en usine. Derrière, j'ai arrêté la fac et j'ai bossé en usine. Et j'ai bossé 3 mois en usine. Et je me suis dit, plus jamais de ma vie, je veux bosser dans un truc comme ça pour absolument que je me bouge parce que je n'ai pas envie de faire un métier comme ça. Et donc, derrière, j'ai enchaîné. Donc, j'ai fait 3 ans de licence. Derrière, j'ai mis un petit peu de sous de côté et je me suis formé tout seul. Je suis devenu entraîneur itinérant. Donc, en fait, j'étais employé par une société qui me donnait des contrats. Donc, j'allais entraîner tennis de table, boxe, etc. Je faisais un peu le
ouais, donc, c'était du sport généraliste, quoi.
Voilà, un peu éducateur sportif. Voilà,
Okay.
Et derrière, j'ai fait mon master en préparation physique. Et donc, à partir de là, je devais avoir à la fin de mon Master 2, en fait, je devais débaucher sur un contrat avec un club. Et le problème, c'est que ce club, ils ont pris un redressement de l'URSSAF à l'époque. Et comme j'étais le dernier arrivé, ben, je suis le premier à être parti. Okay. Et donc, je me suis retrouvé en partant en vacances, ben, sans boulot pour la saison d'après. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas partir dans le métier du coaching sportif. Vas-y, je teste. J'essaie sur 1 an. Je vois ce que ça donne.
Mais pourquoi cette idée-là? Enfin, je sais pas, tu connaissais des gens, tu...
Pas du tout. Ah non, mais moi, je suis un ovni. Je me demande toujours comment j'ai fait pour en arriver là où je suis parce que j'ai vraiment dit, vas-y, j'essaie. En gros, je m'étais dit, je vais avoir un taf dans un club, moitié entraînement, moitié prépa physique. Vas-y, je vais faire quelques heures à côté de coaching sportif pour aider, on va dire, monsieur, madame, tout le monde à perdre du poids, voilà. Mais j'y connaissais, mais rien. Enfin, c'était tellement loin de mes études, tellement loin de tout ce que j'avais fait. Voilà. Et en fait, c'est avéré que j'ai quand même pas mal apprécié ça. J'ai bien aimé, en fait, tout ce milieu-là que je connaissais pas. Voilà. Mais à la base, j'y suis allé, pas par erreur, mais j'y suis allé un peu au petit bonheur de la chance. Bah, j'essaye. Voilà. À l'époque, YouTube, ça n'existait quasiment pas. Instagram, je ne suis pas sûr. Le coaching, ce n'était pas le métier un peu sexy à la mode que c'est actuellement.
Tu te souviens du coup de tes débuts?
Ah ouais, je me souviens de mes débuts. Hein. Je me rappelle souvent, et je le dis souvent, parce que dans mon centre, en fait, on accueille des nouveaux coachs. Quand je leur explique mes débuts, je me rappelle que les 3 premiers mois, donc je me suis déclaré en octobre. J'ai fait octobre, novembre, décembre. J'ai gagné à l'époque, 1 800 euros sur 3 mois. Et sur ces 1 800 euros, 1 200 euros venaient d'entraînement en tennis de table. En fait, j'avais rien dans le coaching, mais rien du tout, quoi. Et c'était la galère. En fait, je savais pas ce qu'il fallait faire, je savais pas où il fallait aller chercher des clients. Je m'étais dit, tiens, je vais mettre mon site sur internet et puis ça va me ramener du monde. Et en fait, pas du tout. J'ai fait des séances découvertes gratuites. Je me rappelle où il y avait 10, 15, 20, 25 personnes. Et puis derrière, t'as personne qui te prend de séance. Et c'était chaud, quoi. C'était chaud au début. Franchement, j'ai eu 1 an, c'était compliqué, mais vas-y, j'ai persévéré. Je me suis dit, essaye sur une année entière. Et en fait, à la fin de l'année, bah, ça commençait à prendre progressivement et je me suis rendu compte que j'étais à l'équilibre. C'est-à-dire que je gagnais autant que je dépensais. Donc, j'ai dit, bah, essaye encore.
Ok. Voilà. Est-ce que tu te souviens comment tu as été chercher les premiers clients?
Alors, mes premiers clients, je me rappelle de mes 3 premiers clients. Ma première cliente, c'était une covoitureuse.
Ok.
Voilà, je me rappelle, covoitureuse, on avait fait donc le trajet Lyon-Clermont. Et en fait, j'avais parlé de mon activité. Elle m'a dit, oh, attends, je suis super intéressé. J'aimerais bien venir avec des copines. Et à l'époque, donc elle était étudiante. Et je me rappelle, elle était venue. Et donc, c'était ma première cliente, elle. J'avais eu, en mettant des cartes de visite, mais ça, mais j'ai peut-être distribué 500, peut-être 1000 cartes de visite dans des petits des magasins, tout ça. Il y a une personne qui m'a contacté. Une pour 1000, pour 15 jours. En termes de bénéfices temps action, on est loin. Hein. Clairement, on est loin.
Les grands principes, quand on démarre, souvent en discutant avec les coachs, ah bah, je vais faire ma carte de visite, je vais faire des flyers et après, je vais m'occuper de mon site internet. Et une fois que j'aurai fait ça, ce sera bon ou je vais voir. Bah, souvent, ce n'est pas les trois meilleures stratégies pour vraiment démarrer et lancer sa carrière de coach, quoi.
Ah bah, c'est clair. Surtout en plus actuellement, il y a tellement d'autres outils maintenant qui nous permettent d'avoir de la clientèle, tout ça. Et c'est souvent ça. Et moi, je leur dis, mais tu sais quoi? Je dis, moi, j'ai même pas de carte de visite. Si tu es intéressé, très bien. Tu vas prendre mon numéro, je vais t'envoyer, souvent, je prends son numéro, et en fait, je lui envoie mon numéro, mon site internet, mes réseaux sociaux, en SMS. Tiens, comme ça, tu vas voir. Voilà.
Mais j'ai plus de carte de visite. C'est beaucoup plus direct, en plus. C'est beaucoup plus direct. Ouais.
Les cartes de visite, ça fait plusieurs années, j'en ai plus.
Donc là, si aujourd'hui, avec tout ce que tu sais, on revenait 8 ans en arrière, si tu avais 3 mois pour te lancer, ça serait quoi tes 3 premières actions, du coup?
Ah, mes 3 premières actions, à l'époque, déjà. Alors, un site, ça, je le ferai, parce que c'était un truc que j'avais fait au début. Je ferai mon site parce que c'est toujours quelque chose qui me rapporte beaucoup, mais clairement j'irai là où les clients sont, c'est-à-dire donc moi j'étais indépendant, donc je pouvais pas rentrer dans les salles de sport, mais par contre je vais aller dans des endroits où les gens sont susceptibles d'être intéressés par le sport. Je me rapprocherai de soit de Décathlon, soit de magasins bio, choses comme ça. J'irai voir des diététiciennes, j'irai voir des masseuses, j'irai voir tous ces gens qui sont dans ce milieu-là du bien-être, de la santé en général. Et je leur proposerai première chose, de monter des partenariats et surtout, en fait, de créer des événements avec eux. Étant donné que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le lien social, en fait, j'aime beaucoup être avec les gens, discuter avec eux, etc. Et ça, je sais que ça fait la diff. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que les gens, ils restent au studio, c'est ce lien social. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je m'amuserai pas à faire du flying dans tous les sens. Par contre, juste les gens qui sont autour de moi, donc on va dire, là, actuellement, si je prends là où je suis, à 20 mètres de moi, juste leur montrer que je suis là. Donc faire une plaquette, leur dire à 20 mètres de chez vous, il y a quelqu'un qui est là pour vous.
Faire un truc beaucoup plus qualitatif, quoi.
Beaucoup plus qualitatif et leur dire c'est vraiment à 20 mètres. Clairement, parce qu'au début, les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Clairement, les réseaux sociaux, je m'y atteindrai et surtout, je ferai les choses correctes parce qu'au début, les réseaux sociaux, je m'y suis intéressé il y a quelques années. Hein. Avant, je ne sais rien en fait dessus.
Yes. Et quand tu parles de site internet, est-ce que tu inciterais les gens à essayer de bidouiller sur WordPress, à essayer de faire leur truc, ou au contraire, tu déléguerais cette partie-là?
Non, faut aller voir. De toute façon, tu as quelqu'un qui a besoin de ta santé, qui a besoin de se remettre en forme, il va avoir un coach. Essaye pas de faire un truc sur internet, de faire un site, ça va pas être bon. Faut réfléchir. Comme nous, la démarche qu'on a envers nos clients, tu veux de la qualitatif, bah, tu vas mettre le prix. Tu mets un site qui fonctionne, bah, tu mets le prix. Ça ne sert à rien de faire des trucs qui fonctionnent à moitié, qui sont buggés, qui ne sont pas beaux, qui ne sont pas adaptés sur les smartphones, etc. etc. Clairement, il faut mettre de l'argent pour avoir un truc qui est qualitatif et au moins, tu n'as plus besoin de t'en occuper. De temps en temps, tu as peut-être des mises à jour et des petits articles à faire, mais c'est tout.
Yes, bah merci bien. Et du coup, on est arrivé à la première année. Il t'a fallu toi combien de temps pour te dire que voilà, j'ai une certaine liberté financière. Voilà, ça se passe bien. Combien de temps il t'a fallu à peu près?
2 ans.
2 ans?
Ouais. Au bout de ma première, alors ça, c'est une des premières choses qu'il faut faire super gaffe, parce que ça a failli coûter mon entreprise. 1 an et demi, là, ça commence à rentrer l'argent. Et puis, ben, j'ai eu les mains qui ont flambé. Et là, j'ai commencé à sortir. J'ai commencé à faire des restos sympas, etc. Et la seule chose que j'avais oublié, c'est que comme tu es indépendant, eh ben, y a des mois où tu ne peux pas avoir, enfin, tu peux ne pas avoir de revenus. Et en fait, j'ai eu 3 mois où j'ai eu quasiment pas de revenus. Et en fait, ça m'a mis clairement mal. J'ai failli fermer mon entreprise parce que je n'avais plus de revenus. Et ben, il faut payer des factures, il faut payer tout ça. Ce qui m'a appris que derrière, il faut toujours avoir la trésorerie. On ne sait jamais. Si voilà, tu ne peux plus travailler, voilà, toujours avoir un peu de trésorerie parce que souvent, quand ça fonctionne, et ben, quand ça tourne bien, ben, voilà. Ouais, t'as les mains qui flambent, quoi. Voilà. Ça peut être compliqué.
Donc, comment tu conseillerais, du coup, les personnes qui se lancent à mieux gérer leur trésorerie? Comment t'as fait, du coup, après ce passage où tu as appris, on va dire, sur le fait? Comment tu as fait ensuite pour gérer mieux cette trésorerie-là?
Ah, bah, franchement, tout simplement, tu prends un papier, un stylo, tu regardes ce que tu dépenses. Donc, ouais, tu regardes ce que tu dépenses, tu regardes ce que tu gagnes en moyenne, tu essaies de glisser sur 6 mois, et tu te dis, bon, déjà, sur ce que tu gagnes, qu'est-ce que je peux, par exemple, enlever? Parce qu'en fait, souvent, on ne s'en rend pas compte, mais des fois, on a des abonnements, on a des choses qu'on n'a pas forcément besoin, qui sont prélevées régulièrement sur nos comptes, clairement comme la personne qui ne va pas en salle de sport, mais qui a un prélèvement de la salle de sport qui se fait tous les mois, ou l'assurance du téléphone que la personne a oublié, ou prend une vidéo, voilà. Donc rien que déjà ça te permet de voir, tiens, là-dessus, je peux prendre un peu d'argent. Et après, faire un comparatif et de dire, j'ai besoin de temps pour vivre, je mets de côté temps et le reste, bah, j'utilise pour sortir, ou je sais pas, pour acheter une voiture, ou voilà. Mais en fait, faire un vrai budget. Tu budgétises ta vie, en fait, simplement. Tu vois où t'en es.
Yes, ok. Et du coup, là, tu nous as dit que tu as mis 2 ans pour commencer à développer ton business. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'au bout de 2 ans, ça se passait mieux? Est-ce que c'est le fait, du coup, de répéter, en fait, semaine, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, les mêmes choses, et qu'au bout d'un moment, bah voilà, je pense qu'il y a le réseau, il y a l'effet, entre guillemets, bouche-oreille, etc., qui fait qu'à un moment donné, ça arrive. Parce que moi, je m'aperçois que beaucoup, tu vois, il y a un peu cette photo un peu qu'on voit où il y a un mec qui est en train de, avec une pioche, de creuser, et au moment où il va trouver, en fait, c'est des diamants, je crois,
ah oui.
Il arrête, tu vois. Et cette photo, en fait, pour moi, elle est hyper marquante, parce que j'ai l'impression que la plupart, en fait, s'arrêtent au moment où, en fait, ils auraient fallu qu'ils donnent le dernier petit effort pour avoir la reconnaissance, avoir le succès, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça?
Ah, mais tu prêches un convaincu, clairement. Quand je vois, parce que faut dire que quand j'ai commencé, donc voilà, je n'étais pas du tout dans le monde du coaching. Je n'étais pas sportif de haut niveau. Même physiquement, tu vois, j'étais très sec. Je faisais de la boxe. J'étais très, très sec. Donc, je n'étais pas le profil. À l'époque, en gros, le profil qu'on avait du coach sportif, c'était le mec bodybuildé, etc. Donc, moi, j'étais vraiment totalement opposé à ça. Donc, sans réseau, sans thune, sans rien, dans une ville où je connais quasiment personne, c'est obligé, je vais me planter. Enfin, j'avais tous les curseurs qui montraient que j'allais me planter. Ouais, sauf qu'en fait, j'avais oublié un truc, c'est que je suis quelqu'un qui est très persévérant. Et donc, en fait, j'ai charbonné, mais de ouf, quoi. J'ai bossé les samedis, j'ai bossé les dimanches. Je prenais tout ce que j'avais à apprendre. Et surtout, je me formais. Aussi, parce que il y avait sur certaines méthodes, j'étais pas très à l'aise. Bah, c'est comme ça que je t'ai connu. C'est à peu près à cette période où je t'ai connu. J'étais venu me former au cross-training dans ton centre. Et voilà. Et c'est ça qui a fait que le fait de bosser, de continuer d'avancer, de se former, qui te permet d'ouvrir un peu tes champs de possibilités, d'ouvrir de nouvelles choses, de nouvelles activités, et après au bout d'un moment tu rassembles les gens, et puis après ton réseau te permet d'avoir on va dire un revenu fixe t'as plus besoin de t'inquiéter, voilà, de ce revenu fixe, de cette base pour payer tes factures. Et derrière, après, tu peux te projeter sur autre chose.
Yes. Il y a un truc qui me fascine, moi, depuis que je coach des entrepreneurs, des freelance, des coachs, c'est l'aspect mental. Et je pense que tu m'as dit que tout à l'heure, tu avais fait des formations là-dessus. Et un sportif, il y a le mental, on en entend aussi beaucoup parler dans le haut niveau ou autre. Qu'est-ce qui, selon toi, tu nous as parlé de persévérance, comment tu fais pour cultiver cette persévérance, le fait de ne pas lâcher? Est-ce que du coup, c'est peut-être avec la boxe aussi qui t'a inculqué des choses? Et je me rends compte que le mindset fait beaucoup, parce qu'aujourd'hui, les coachs recherchent des petites tactiques sur les réseaux sociaux, des bidouilles de stratégie marketing. Alors oui, le marketing, la vente, c'est important, mais je pense que le premier levier pour réussir dans tout ce que l'on fait, il est là. Et toi, comment tu as fait, du coup? Ou est-ce que tu sais, ou est-ce que ça a été, entre guillemets, peut-être l'éducation, ça a été naturel pour toi? Est-ce que tu peux nous partager ça?
Moi, je suis d'accord. Hein. On a beau avoir toutes les plus belles compétences du monde, les meilleures stratégies au monde, si tu n'es pas bosseur, ça ne fonctionnera pas. Mais je te dis ça, sachant qu'à la base, vraiment, hein, je suis un branleur. Je suis une feignasse. Quand j'étais adolescent, c'était une catastrophe.
Il y a forcément un déclic, du coup.
Ouais, il y a un déclic. En fait, le déclic, il est venu sur plusieurs choses. La première chose, c'est le fait d'avoir fait de la boxe thaï, qui est un sport très dur, dur au mal, et c'est très intense. Et puis surtout, c'est un sport qui fait mal. Enfin, physiquement, ça fait mal. Que tu gagnes, que tu perds, t'as mal. Voilà. Donc déjà. Quand j'étais dans le bon, bien lancé déjà, voilà, je pouvais bosser fort. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est le fait d'être allé bosser en usine. Parce que j'ai bossé avec, je me rappelle, je m'étais retrouvé dans une entreprise où il y avait des mecs qui venaient de sortir de tôle, il y avait des gars qui étaient complètement alcooliques, et il y avait moi, l'étudiant au milieu. Je me disais, mais tu fais quoi, mec? D'ailleurs, les gars m'ont dit, tu fais quoi? J'ai arrêté mes études et puis voilà, je vais mettre un peu d'argent de côté. Ouais, mais les gars, ils m'ont dit, mais t'as rien à faire là. Et ouais, j'avais rien à faire là. Donc, quand de base, c'est un sport qui te met la persévérance est au centre des qualités mentales, que derrière, t'as vu ce que c'était galérer et travailler comme un chien, tu te dis, jamais de la vie, je vais me retrouver dans cette situation-là. Donc, je suis obligé. De toute façon, c'est comme c'est l'exemple du ver de terre. Les vers de terre, il est très bien en surface. Et c'est à partir du moment où il va être dans le mal qu'il va venir creuser. Et c'est pour ça que quand tu vois des fois, il y a des vers de terre, ça creuse super bas, tu sais que ce ver de terre-là qui a creusé super bas, c'est quelqu'un, c'est un ver de terre qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Il a failli se rattraper, donc il descend de plus en plus bas. Pour la persévérance, c'est la même chose. Quand tu es allé toucher un peu ce que c'était la galère, je te jure que tu n'as pas envie d'y retourner.
Yes, merci bien, merci bien.
Il y a un autre truc que je pense, c'est que, alors c'est pas tous, hein, mais on est quand même dans une société où on a beaucoup d'aide, les parents, la famille, tout ça, et moi, mes parents et ma famille, ils ne pouvaient pas trop m'aider financièrement. Je ne viens pas d'une famille bourgeoise, pas du tout. Moi, je viens d'une famille de classe ouvrière, donc mes parents ne pouvaient pas m'aider beaucoup. Donc, il a fallu, par mes propres moyens, que je puisse m'en sortir.
Et du coup, pour revenir un petit peu au business model que tu avais choisi, pourquoi tu n'as pas choisi d'aller dans un club de fitness et de te lancer dans le coaching dans un club? Ça a été quoi aussi le déclic par rapport à ça?
Faut savoir que j'ai toujours eu un problème avec l'autorité et avoir un patron au-dessus de moi a toujours été problématique. Quand j'étais étudiant, je faisais des boulots étudiants. C'était compliqué. C'était très compliqué d'avoir un patron. Si la personne me montrait qu'elle avait des compétences et qu'elle était qualifiée pour son boulot, il n'y a pas de souci, je pouvais bosser fort et il me demandait ce qu'il voulait, il n'y a pas de souci. La problématique, c'est que lorsque la personne n'a pas de compétences ou que moi, je ne l'estime pas, ça ne le fait pas. Quoi. J'ai eu des soucis quand j'ai été en boulot d'étudiant. Et je me dis, non, j'ai pas envie. J'aime ma liberté. J'aime être libre de faire ce que je veux quand je veux. J'ai toujours, toujours été libre. Et en fait, c'est pour ça que je ne voulais pas avoir de patron au-dessus de moi. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, en gros, j'avais un peu le rêve de me dire, en sortant de la fac, voilà, dans 5 ou 10 ans, j'aimerais avoir un centre de préparation physique et coacher des athlètes avec médecins, nutritionniste.
Pour avoir une cellule complète de prépa physique, santé et autres, quoi, c'est ça ?
C'est ça. Voilà, parce qu'on avait eu l'opportunité de voir ça en cours. On était allé visiter ce genre de centre et tu te dis, c'est parfait, quoi.
Et c'est une bonne transition, du coup. Il me semble que c'était Attitude Sport que tu t'appelais avant. Est-ce que c'était au début avec le studio, enfin la création de ton studio? Comment est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, voilà, comment ça s'est passé au fur et à mesure des années?
Eh ben, Attitude Sport, donc, elle est toujours présente. C'est ma boîte de coaching. Donc elle est toujours, bah toi, hein, j'ai même ma tasse Attitude Sport. Okay. donc ça c'était et c'est toujours ma boîte de coaching. Et il y a 3 ans en arrière, j'ai eu en fait 3-4 galères qui sont enchaînées à la suite. Et en gros, je me suis fait voler pour 20 000 euros de matériel non remboursé par mon assurance. Parce que ça m'est arrivé dans une situation dans laquelle je ne pouvais pas me faire rembourser le matériel. Derrière, je me suis fait… Enfin, le centre de coaching que je louais a fermé. On l'a su au dernier moment. Et donc, je me suis retrouvé vraiment prisonnier et emmerdé. Et donc, il a fallu que je déménage rapidement. Et j'ai trouvé un pseudo-centre de coaching dans le 9e, mais un truc qui était pourri. Et donc, j'ai pu bosser un peu dedans. Et en fait, ça s'est joué sur 2 semaines. J'ai une collègue de boulot qui me dit qu'elle aimerait monter son centre. Les gestionnaires du centre pourri dans le 9e me disent qu'ils veulent vendre leur centre. Et j'ai une cliente qui me dit qu'elle veut changer de taf et qu'elle aimerait faire de l'investissement pour les coachs sportifs, parce que quelques mois auparavant, je m'étais retrouvé dans la merde. Et en fait, ça lui avait donné l'idée.
Ouais, les planètes étaient alignées, là, du coup.
C'est ça. Et sachant que moi, j'ai été pris à la gorge, parce que voilà, il a fallu que je relance un deuxième crédit, etc. Et en fait, je ne me suis même pas posé de questions. Quand j'ai vu que ça s'était mis en place, j'ai dit, vas-y, je suis allé voir ma cliente, qui était ma cliente à l'époque, et je lui ai dit, ça te dit qu'on monte un centre de coaching ensemble, un truc qui nous ressemble, et qu'on fasse que nous, et comme ça on va pas s'occuper des autres, on a pas besoin de demander la permission, voilà, on fait notre truc à nous, etc. Et en fait, elle était à un moment donné où elle voulait changer de métier, et en fait tout s'est lié, tu vois.
Ok, donc c'est là où du coup tu es venu à monter ce nouveau studio qui s'appelle, je crois que je l'ai noté, Agora Feed and Mind, c'est ça ?
Exactement. Okay. Voilà. Et donc ça, c'était il y a 3 ans, mais c'était vraiment… faut vraiment le voir que ça a été une période qui a été compliquée, parce que en gros, je me rappelle, c'était le jour de mes 30 ans. Le jour de mes 30 ans, je me fais voler une Mia Bodité, 20 000 euros. Vanish, disparu, voilà.
Et t'as jamais su du coup?
On n'a jamais su, rien du tout, police, rien, jamais, voilà. Le mois d'après, je me fais virer du centre. Le centre ferme, au dernier moment, l'autre nous a dit, vous avez un mois pour quitter, parce qu'après, ils vont tout casser. Super. Le mois d'après, je me fais opérer de mon ligament croisé, parce que j'avais mon ligament croisé qui était en attente, et il fallait que je me fasse opérer. Et donc, un mois où tu ne travailles pas, sachant que j'avais refait un crédit, 2 mois après, donc en gros à 5 mois, ouais, 4-5 mois après à mettre là, j'ai ces petits indices-là pour monter mon studio, sachant que je n'ai plus de thunes, hein, enfin, tu vois, j'avais plein. Et je me dis, bah, vas-y, je fonce, j'y vais. Plein fer, on y va et on voit ce que ça donne.
Ok. Et avant justement d'avoir l'opportunité, tu étais dans quel état ?
Ouais, j'étais dans un état mais de flottement. C'est ce que je dis. J'étais tellement en galère de thunes que je mangeais la même chose tous les jours pour faire des économies. Et en fait, mon repas me coûtait 2 euros par jour. Je mangeais riz, lentilles, courgettes. D'accord ? Et je mangeais ça. Midi, soir, midi, soir, midi, soir. Et en fait, je mangeais que ça, parce que ça ne me coûtait pas de thunes. Pour faire des économies, parce que, en fait, j'étais vraiment ric-rac, quoi. Donc, quand tu vois, des fois, ça m'énerve, j'entends des gens qui disent, ouais, c'est compliqué, ouais. Ah ouais, mais c'est toi qui es parti en vacances il y a 15 jours. Je pense qu'on n'a pas la même notion de compliqué, tu vois. Moi, pendant 8 mois, je ne suis pas sorti. Pendant 8 mois, je ne suis pas sorti du tout. Je ne suis pas allé boire un verre, je ne pouvais pas. Ce n'était pas possible.
Et du coup, comment ça a été quoi une nouvelle fois ce déclic ? En fait, tu l'as pris comme une opportunité. Tu t'es dit, de toute façon, je n'ai rien à perdre et on y va ? Ou
ouais. Comment, ouais, ouais. En fait, je me suis dit, il m'arrive tellement de galères. Oui, parce que bien sûr, entre-temps, galère d'appart, etc. Je devais aménager avec un coloc. Mais malheureusement, cet ami-là est décédé d'une maladie, donc je me suis retrouvé tout seul, je me suis retrouvé à aménager à droite à gauche, bref, 8 mois de galère monumentale. Mais comme j'ai dit, en fait, je suis persévérant. Et en fait, mon idée, voilà, je veux bosser dans le sport, j'adore mon métier, sans me vanter, etc. Je pense que je suis bon dans ce que je fais, j'ai pas envie d'arrêter, donc je me lance dedans et j'y mets tout, mes tripes, mes économies, tout. Même mes cheveux, tu vois, regarde, j'ai même mis mes cheveux.
Tu les as revendus au marché noir, c'est bien.
C'est donc, voilà.
Ouais, je voudrais revenir un petit peu sur le studio parce qu'on me contacte souvent pour la création de studio, pour le lancement ou autre. Il y a souvent les questions qui reviennent fréquemment, c'est comment je fais pour trouver un local, quel type de superficie, est-ce que je dois m'associer ou au contraire, est-ce que je dois le faire seul ? Quel est ton ressenti par rapport à tout ça ? Bon, en sachant que tu nous as expliqué un petit peu comment tu avais réussi à trouver le local, mais est-ce que tu as des conseils ou des choses à nous dire par rapport à ça ?
Ouais. Déjà, en fait, je pense que studio, c'est très large. Qu'est-ce que tu veux dans ton studio ? Et moi, en fait, comme je t'ai dit auparavant, quand j'ai commencé mon métier de coach, j'avais cette idée, voilà, ce petit rêve d'avoir des structures un peu comme des structures de haut niveau. C'est-à-dire qu'au même endroit, on a du médical et de l'entraînement. Et nous, au studio, en fait, c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on est en train de faire. Toi, là, je suis dans le cabinet de soins, dans le cabinet de l'ostéo, de la diète et de la masseuse. C'est-à-dire qu'on s'est dit, au même endroit, on va regrouper du paramédical, massage, diète, ostéopathie, et on va mettre une partie coaching. Voilà. Donc, en partant de ça, on a dit, on n'a pas besoin d'un grand local. On ne fait pas de groupe, il n'y a pas de courco. Entraînement fonctionnel, donc rack, crossfit, donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace, puisque ce n'est pas des machines. Voilà. Donc déjà, voilà. Déjà, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux un studio box, un studio pilates, un studio coaching plus, voilà.
C'est ce qui va déterminer du coup à peu près la superficie, quoi, en gros.
Voilà, déjà à peu près, tu peux dire comment ça fonctionne. Après, pour l'association, donc c'est quelque chose qui est très compliqué. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que ma collègue, en fait, mon associée, elle m'avait déjà aidé un petit peu sur du marketing d'ailleurs. Elle m'avait aidé sur du marketing et en fait, on avait bien accroché. Et donc, elle était sérieuse, sachant qu'elle m'aidait, gratuitement. Enfin, tu vois, elle n'a jamais voulu que je la paye. Elle m'a dit, voilà, je te fais ça gratuitement, ça me fait plaisir, voilà, je t'aide là-dedans. Et là, je me suis dit, voilà, quelqu'un qui est investi dans un travail gratuit, qui est rigoureuse, en plus d'être rigoureuse à l'entraînement, avec qui on a une philosophie et une approche pareille sur la santé. Elle n'était pas coach à l'époque, mais elle prenait soin d'elle, elle mangeait correctement, elle s'entraînait, etc. Elle avait vu que l'entraînement pouvait l'aider dans sa vie, etc. Bref, tu vois, rigoureuse, carrée. Moi, j'avais le côté conseil technique, matériel, etc. Elle, elle avait le côté marketing, juridique, compta. Voilà, hein. Il n'y a plus qu'à.
Comment vous gérez au quotidien, du coup ? Comment vous gérez à tous les deux ? Est-ce que chacun a ses tâches, a son département, ou comment vous le mettez en place ? Comment ça se gère ?
Alors, moi, j'ai la gestion quotidienne du studio, c'est-à-dire le ménage. Donc voilà, donc tout ce qui est voilà, changer les poubelles, tout ça, voilà. Donc ça c'est moi qui le fais. Je m'occupe d'une partie de la compta et je m'occupe de tout ce qui est relation avec les autres, donc relation avec d'autres coachs, trouver, comme j'ai un gros réseau, tout ce qui va être coaching d'entreprise, tout ce qui va être opportunité de avec d'autres coachs, etc. Bon, bref, moi j'ai toute cette partie là et elle va plutôt s'occuper de la partie donc comptable, mais plutôt bilan comptabilité, voilà, et la partie juridique, les contrats et choses comme ça.
Ok. Et au niveau de votre business model, vous avez choisi de faire quoi ? Vous faites du coaching privé, du coaching en petit groupe ? Comment, quel type de proposition de valeur vous proposez à vos clients ?
Alors déjà, on a un concept qui est quand même novateur, parce que ça n'existe pas sur Lyon, le fait d'avoir sur place de l'ostéopathie, de la diète, du massage et du coaching. Donc ça, déjà, ça n'existe pas.
D'où l'appellation un peu holistique, accompagnement un peu global, quoi.
C'est ça. D'où même, parce qu'après, les gens ne le savent peut-être pas, Agora, l'Agora à la base, c'est un nom grec qui veut dire... C'était l'endroit dans la Grèce antique où les citoyens se réunissaient pour permettre de faire évoluer la cité. Et en fait, nous, on a rassemblé nos compétences pour la mettre au service de la santé et de la performance de nos coachés. C'est pour ça que quand je dis c'est Agora, Fit aussi, il y a l'esprit, un mind, et j'appelle ça un centre de mieux-être et de performance. Parce qu'on a les deux. Et en fait, on a un business model au niveau de la salle qui est que les indépendants nous louent l'espace.
Oui.
Voilà, de manière à ce que ça nous paye notre loyer. Et après, nous, on a d'autres structures, donc nos structures indépendantes, et on travaille dedans. C'est-à-dire que moi, j'ai ma société de coaching Attitude Sport. Donc, je suis en entreprise individuelle. Et de l'autre côté, on a la salle Agora Fit & Mind. Et là, on est en SAS, on est associé dedans. Mais mon associé, elle a aussi sa société individuelle de coaching.
OK. Mais ça ne t'empêche pas de faire des coachings à l'intérieur de ton centre.
Exactement. En fait, l'idée, c'était de créer son propre outil de travail pour éviter ce qui m'est arrivé il y a quelques années, le fait de quasiment du jour au lendemain me dire ben voilà, t'as un mois et casse-toi, parce que de toute façon la salle avait détruit. Là c'est à nous en fait, donc on sait ce qu'on fait dedans. On veut acheter tel matériel, et ben j'ai envie d'acheter ça, ben je vais acheter ça, et puis même moi j'y reste tous les jours. J'y suis de 7h à 17, 18, 19, 20 dans la salle. Donc c'est chez moi en fait, c'est ma deuxième maison.
Et comment tu as fait du coup pour fédérer d'autres coachs, ou c'est quoi qu'est-ce que tu leur as proposé sous forme de loyer en fonction du nombre de coaching, comment tu t'y es pris?
On a voulu faire très simple parce que sinon après c'est trop compliqué. On a fait deux formules, une formule à l'horaire, une formule illimitée. C'est-à-dire que coaching illimité, il s'inscrit donc sur le planning, on a un planning partagé tout ensemble pour pas qu'il y ait trop de monde sur le même créneau, mais c'est jamais arrivé encore puisqu'on arrive à...
on est bien. Tu voilà, peux mettre combien de clients en coaching? Tu fais que du one-to-one?
Que du one-to-one, on a deux small groups, mais bon, qui sont des horaires bizarres, donc ça gêne pas, mais sinon que du one-to-one, voilà. Chaque coach est un one-to-one et on a jusqu'à 4 coachs avec 4 clients.
Ok.
Puisqu'on a une partie électrostimulation, donc là, elle est à part, celle-là.
Ouais.
Et après, on a 3 postes qui sont bien définis, dans la salle pour la partie coaching.
Ok.
Voilà. Okay. Donc, et il n'y a pas de souci. Hein. Franchement, ça tombe bien.
Aujourd'hui, vous avez combien de coachs qui travaillent dans le studio?
On a 6 coachs. On a 3 coachs en illimité et 3 coachs à l'horaire.
Plus la partie nutrition, massage ou autre qui, je pense, vous loue à la journée ou à l'heure ou votre espace.
C'est ça. En fait, la diététicienne et l'ostéopathe louent à la journée et la masseuse loue à l'horaire.
D'accord.
Et en plus, les week-ends, on a une praticienne en Wim Hof qui vient louer la salle.
Ok.
Voilà. Et de temps en temps, après, voilà, ça, c'est des choses qu'on avait lancées, mais avec le Covid, ça a arrêté. On a accueilli de temps en temps des formations, on a accueilli ce genre de choses pour que la salle continue à tourner le week-end.
Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022? Quels sont les projets, les objectifs?
Professionnellement, finir ma formation en posturologue. Mmh. Parce que je l'ai commencé en 2021 et ça a été un peu compliqué. Il y a eu une très grosse séparation entre les deux modules. Et là-dessus, faut que j'avance là-dessus. Donc, continuer mes formations parce que je fais une formation aussi en optimisation fiscale. Voilà, que le centre tourne toujours aussi bien. Voilà, qu'on continue notre ascension. Et voilà, bon, après, au niveau du boulot, j'ai rien de plus à me souhaiter. Et on va dire, sur le côté perso, pouvoir revoyager, hein, ça pourrait être pas mal.
Ouais. Et du coup, j'avais noté une question, enfin, quelque chose que je voulais te poser. Comment vous avez géré le confinement? Comment vous avez géré la COVID avec vos clients? Est-ce que ça vous a donné du coup des nouvelles opportunités? Voilà, comment vous avez fait, vous?
Eh bien, nous, comme je t'ai dit, en fait, on est vraiment dans notre bulle. On est dans notre bulle. On ne sait pas ce qui se passe dans le monde. On fait notre taf de notre côté. On est une toute petite structure. Bon, le premier confinement, on l'a fait à la maison. Voilà. L'équipe était différente à l'époque. Moi, l'avantage, c'est que mes clients, mes coachés, ils me sont très… ils me sont fidèles. Ça fait un moment que je les suis. Donc, moi, je les suis en visio. Et tu vois, je n'ai même pas touché d'aide de l'État parce que je continue à bosser, en fait. Moi, je continue à bosser pareil. Derrière, j'ai…
Juste une petite question. Comment tu as fait la transition? Parce que souvent, l'excuse de certains coachs, c'est « oui, mais moi, les gens, ils ne veulent pas être en visio, ou ils veulent me voir physiquement. » Comment tu as fait? Est-ce que tu as eu ce genre de cas-là? Et comment tu as fait justement pour retourner la situation?
Je l'ai eu à 20% peut-être.
Ok.
Bah, tu sais, les…
Ah.
C'est
soit tu fais quelque chose ou soit tu fais rien. Et...
Bah, c'est ça, en fait. En fait, ok, d'accord, pas de problème. Bah, on en reparle dans 3 mois, tu vois. Moi, les gens, ils ne sont même pas de poser de questions, tu vois. Bah, je faisais des séances, mais… alors, par contre, dès qu'il y a eu le confinement, etc., et moi, je savais que ça allait durer au minimum 2 mois. Voilà, j'avais quelqu'un qui m'avait dit ça va durer au minimum 2 mois. Attends-toi 2 mois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, en fait, première semaine, j'ai acheté 3 bouquins sur de la calisthénie et j'ai bossé à blinde tout ce qui est poids de corps, etc. Et en fait, moi, j'ai continué à coacher au poids de corps et j'ai même eu des coachings en plus, tu vois. C'est pas ça qui m'a empêché de travailler. Derrière, on a pu faire des entreprises en coaching en visio. Voilà. Amène correctement et adapte ton discours à ton client. Parce que si ton client, il veut pas, c'est qu'il y a un souci. Comme on disait tout à l'heure, t'es coaching holistique. T'es pas que coach sportif, en fait. Ton client, tu vas l'accompagner sur beaucoup plus de choses. Mmh. S'il dit, bah ouais, mais je peux rien faire, j'ai pas envie, la flemme. Ouais, ben, c'est peut-être parce que la façon dont tu amènes ton coaching, il est peut-être pas adapté ou peut-être que t'insistes pas sur certaines choses. Moi, j'ai eu des coachings en visio où tu commences et en fait, la personne, elle te dit, je me sens pas bien, tout ça. En fait, tu passes une heure à discuter. Mmh. Et c'est pas du coaching sportif. Hein.
Mmh. Ouais, c'est là où je pense qu'il va falloir revoir un peu notre cursus ou notre façon d'aborder notre métier. C'est clair que pour moi, alors je dis coach sportif parce que c'est le seul nom qui me vient à l'esprit ou autre. Mais aujourd'hui, oui, on est bien plus qu'un prescripteur d'exercices, on est bien plus que quelqu'un qui donne des exercices ou qui fait attention à la posture, même si c'est super important. On doit être plus que ça aujourd'hui, et malheureusement, en tout cas j'espère me tromper ou peut-être que ça va arriver, on ne nous prépare pas du tout à ça. Tu vois, on ne nous prépare pas à ce nouveau métier pour moi qui est être coach. Et puis, deuxième truc, c'est qu'on ne nous prépare pas aussi à développer notre propre activité. Mais bon, ça, ce n'est pas, c'est pas nouveau, quoi. C'est pas nouveau.
Non, mais ça, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. On est très, très, très en retard là-dessus. C'est une catastrophe. Moi, quand je vois ce que je vois, parce que j'interviens dans des écoles, tu sais, je suis formateur dans des écoles, leur dire, mais les gars, à un moment donné, stop, en face de vous, vous allez avoir des gens sportifs, peut-être, mais la plupart des gens que vous allez avoir des gens qui sont cassés physiquement, mais surtout des gens qui sont cassés mentalement. Moi, j'en ai, je les récupère, mais c'est même leur âme qui sont brisées, les gens qui sont brisés. Et toi, il faut que tu ailles récupérer les petits morceaux. Puis ensemble, et la pratique du sport va aider, mais d'abord il va falloir que tu le rassembles, le gars, parce que quoi, s'il est dispersé dans tous les sens, ça va pas le faire. Voilà, si la personne elle est foncièrement mal, il va peut-être falloir lui apporter autre chose que lui dire, bah, vas-y, fais des squats, quoi.
C'est sûr.
Et c'est pour ça, je pense que qui a fait que pendant le confinement, j'ai pas eu de problème, c'est que le premier, le street, on l'a fait en visio et parfois j'ai passé à discuter, ou alors surtout j'étais beaucoup plus présent pour les gens, c'est-à-dire vraiment la personne se sentait pas bien, envoie-moi un texto, tu vois, ou je te prends un appel. Voilà, donc même si j'étais, tu vois, j'étais dans la maison familiale, et des fois tu prends le téléphone et t'appelles quelqu'un parce que la personne n'allait pas bien, tu vois. Mmh. Et juste 5 minutes au téléphone, ça fait la diff.
Ouais, c'est sûr.
5 minutes, ça fait la différence. Et après, par contre, moi sur la deuxième partie, donc sur les deux autres confinements, quand on devait faire coaching en extérieur, nous en fait la salle elle donne sur un parking, donc en fait on prenait le matériel, on sortait dehors.
Ouais.
Donc ça ne changeait rien, s'il pleuvait on se mettait sous un préau, et après moi quand il y a le couvre-feu, je dis vous allez vous faire foutre, moi le couvre-feu je ne l'ai jamais respecté. Si je me faisais toper quand j'allais à domicile, je me serais fait toper, tant pis. Moi je t'ai dit clairement, j'ai fait ma vie.
Chaque problème, une solution avec toi.
Une adaptation, pas forcément une solution, parce que c'est pas.
T'as toujours trouvé des solutions, tu vois. Ouais. C'est ça qui est moi que je retiens de notre échange, c'est que voilà, on peut toujours se lamenter, trouver des excuses, mais à un moment donné, rien ne changera de toute façon. Donc autant se dire bon. Est-ce que je vois le verre à moitié vide ou est-ce que je le vois à moitié plein et puis j'avance, quoi, tu vois. Et ça, c'est hyper inspirant, je trouve.
Déjà, il faut savoir que moi, cette période-là, en fait, a été bénéfique pour mon chiffre d'affaires. J'ai plus de clients, j'ai eu plus de retours, enfin, j'ai eu pas mal de choses en plus. Et vraiment, moi, des fois, j'en vois, je veux dire, mais ferme ta bouche. Arrête de te poser des questions, arrête de te lamenter sur ton sort, bouge-toi, active-toi, et tu vas voir que ça fonctionne. Que le coach il arrive, il a laissé en main, il est comme ça, hein, mais qu'est-ce que tu veux que les gens ils aient confiance en toi? T'es pas que coach, t'es une figure d'autorité, t'es une figure un peu de modèle, voilà. Il faut que tu leur inspires des choses. Si t'arrives et que tu leur inspires de la pitié, ça ne va pas le faire.
Yes. Et j'aimerais que tu reviennes rapidement sur... Tu nous as parlé des entreprises. Comment tu as fait pour... ou comment tu fais aujourd'hui pour aller dans les entreprises ou pour développer du business au sein même des entreprises?
Alors, il y a eu plusieurs choses. J'ai fait un peu de sous-traitance au début en commençant. C'était sympa, mais rapidement, ça m'a saoulé. Maintenant, en fait, c'est le panel de clients que j'ai. Voilà, je leur dis, ils le savent. On peut vous faire intervention en entreprise. Moi, tous les gens qui viennent à la salle, qui viennent pour du coaching, la première chose, tu fais quoi dans la vie? Ah, tu fais ça. Tu sais qu'on peut proposer ça pour ta boîte, etc. Moi, je rentre direct. Moi, je leur dis comme ça. Et voilà. Et c'est ce qui fait que maintenant, on arrive à faire un peu de coaching en entreprise. Moi, ce que je préfère, ce que j'adore faire, en fait, c'est pas forcément aller tous les jours, enfin, toutes les semaines à l'entreprise. Ce que j'aime faire, c'est des séminaires. Et ça, je trouve ça trop fort. J'en ai fait deux, là, récemment.
Soit sous forme de team building ou de choses comme ça?
Ouais. C'est ça. Et ça.
Ouais, c'est sympa, ouais. C'est sympa.
Ça, j'adore parce qu'il y a une ambiance. Tu vois, les gens, ils sont complètement. Ils accrochent. Et puis, même moi, je m'amuse en fait en faisant les. En inventant. C'est super prenant. Par contre, j'ai pas de méthode. Là-dessus, pour trouver des clients en individuel, il n'y a pas de souci. Là, j'ai pas mal de trucs qui fonctionnent bien. Par contre, pour les entreprises, bah, maintenant, j'ai un réseau qui me permet d'en avoir. Donc,
bah, c'était déjà une bonne. Le fait déjà de demander à ses clients et se servir de ses clients, c'est déjà une pépite, je trouve. C'est intéressant. C'est intéressant.
Bah ouais, parce qu'il
y a des trucs à creuser.
Des fois, tu sais, on va chercher, on les voit là. Confinement, les gars qui te trouvent 15 000 euros de chiffre d'affaires en une semaine, là, voilà. Il y en a tellement qui vont pousser, mais on a oublié de la chose essentielle. C'est bien le marketing, c'est bien le digital, mais on a oublié la base. Et moi, quand j'ai dit au début de l'interview, la relation humaine, parle-en, dis-lui, tiens, je sais pas, moi, t'es comptable. Ah ouais, c'est cool. Ah, elle est bien ta boîte. Putain, vous êtes 50. Tu sais quoi? Bah, je peux te proposer petit team building et tout. Tu vois, ça peut être sympa. On peut faire ça, bon, tout ça. Ah ouais, putain, ça peut être cool et tout. Ah, on cherche une activité à faire avec nos collègues en fin d'année. Et hop, voilà. Il a l'idée en tête. Et voilà. Et quand ils vont parler en fin d'année, tiens, j'ai mon coach, il peut nous proposer quelque chose. Et voilà.
Yes. Très bon conseil. Qu'est-ce qui te fait, toi, lever le matin? Pourquoi tu... Voilà, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie?
Bah déjà, les matins, moi, je me lève tôt, voire très tôt. Je suis debout entre 5h et 5h30. Déjà, j'ai rendez-vous avec mes clients. Voilà. Et pour moi, c'est un immense honneur. Mais vraiment, je le redis à chaque fois, c'est un immense honneur quand j'ai des gens qui viennent à 6h30. 6 heures même, il y en a qui viennent à 6 heures du matin. Et pour moi, c'est de dire que les gens se lèvent aussitôt pour venir faire une séance avec moi, enfin, c'est déjà un immense honneur. Et puis surtout, ben, je kiffe mon métier, en fait. Donc en fait, je me lève pas je me lève et je me dis que je vais faire un truc que j'aime et surtout un métier qui sert réellement. J'ai eu... je vais donner un exemple, mais j'ai une cliente, moi, qui a eu le Covid. Ils lui ont dit, si vous n'aviez pas votre condition physique, donc elle a des gros problèmes de santé, etc. Hein, voilà, elle a eu une forme très grave, etc. Ils lui ont dit, texto, si vous n'aviez pas eu la condition physique que vous avez actuellement, bah, vous auriez déjà fini 6 pieds sous terre, quoi. Et là, tu te dis, putain, mon métier, vraiment, il est utile. Mmh. Donc, une fois que tu sais ça, moi, je peux me lever, moi, il n'y a pas de problème. Hein.
Et ça ressemble à quoi, alors, une journée type de Loïc Dia, alors?
Ça ressemble à quoi? Ça ressemble 6h30 jusqu'à 9h coaching. Entre 6h et 7h jusqu'à 9h coaching. Derrière, entraînement. J'essaye de m'entraîner une fois par jour, une fois tous les deux jours. Voilà, donc plein d'activités différentes, les papiers, toujours un petit peu de papier, répondre à un mail, etc. On en a tous un petit peu bien là-dessus. Après, je reprends en gros vers 11h30 jusqu'à 13h30, 14h, je mange, sieste, je dors à la salle. S'il n'y a personne qui coach à la salle, si le cabinet de soins est libre, je vais dormir une petite demi-heure. Sinon, je fais autre chose, j'aime bien faire autre chose derrière. J'aime bien couper dans la journée, donc je sais pas, soit je vais lire un truc différent du sport. J'aime pas être trop dans le sport, tu vois, j'aime pas être trop dedans. J'adore mon métier, mais j'aime bien faire autre chose.
Sortir un peu, ouais.
Voilà, je sais pas, aller faire une course, aller en ville, ou regarder un épisode sur Netflix, moi, je sais pas. Et retourner au taf à, vers les 16 heures, tu vois, 16, 17. Et après, bah, finir 17, 18, voilà. En gros, je pense que par jour, je dois faire entre 6 et 9 séances.
Ok.
Voilà.
Ok, ok. Et en termes d'organisation après sur l'année, en termes de vacances, comment tu gères du coup cet équilibre ou l'aspect aussi mental qui est important? Parce que bon, même si on adore notre métier, on peut justement aussi à un moment donné péter un plomb. Comment tu arrives à gérer cet équilibre-là, toi?
Alors, on parle avant Covid ou post-Covid?
Maintenant?
En fait, avant le Covid, je partais juste après Noël, je partais 3 semaines à l'étranger et donc je partais très loin. Pays asiatique, parce que voilà, j'ai grandi dedans, etc. La boxe thaï, pays asiatique. Et je partais 3 semaines. Voilà. Et derrière, je partais après en cours de.
Donc là, tu devrais être parti du coup.
Mais tu sais que normalement, je ne devrais pas être là. En Thaïlande, si le test and go, il l'avait pas enlevé, puisque je devais partir, j'allais rejoindre un collègue là-bas, je devrais être en Thaïlande actuellement.
Okay.
Je n'ai pas pu. Donc c'est un peu embêtant, mais bon, c'est comme ça. En fait, malgré le fait que j'adore mon métier, si je veux partir, je pars. Je m'en fous, je pars. Je n'ai pas de questions, j'ai pas de compte à rendre à personne. J'adore mes clients, j'adore mon taf. Je suis hyper investi, mais si je dois partir, je pars. Je me débrouille pour me faire remplacer. Donc ça, il n'y a pas de problème. L'avantage de travailler plusieurs coachs, c'est que maintenant, je me fais remplacer. Mais par contre, je pars. Et si je veux partir un mois en plein milieu de l'année, je pars un mois en plein milieu de l'année. Voilà. J'essaie juste de partir sur la période de Noël, parce que je sais que j'ai moins de clients à ce moment-là. Mmh. Mais après, je peux partir une semaine à droite, une semaine à gauche. Je suis pas du tout... à me dire, oh mon Dieu, mais ou alors faut que je gagne de l'argent. Non, non, je pars, je fais ce que je veux, en fait. Ça rejoint, en fait, ma liberté de d'entreprendre, ma liberté de penser, ma liberté d'être.
Et comment tu t'améliores tous les jours?
J'essaie de me dire, chaque fin de journée, j'essaie d'avoir appris quelque chose. Soit par ma pratique sportive, soit le fait d'échanger en fait avec mes clients, voilà, j'essaie tous les jours d'apprendre quelque chose et surtout, sur moi c'est marqué, d'accord, c'est même tatoué que vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre pour toujours. Donc, en fait, j'ai les deux, je fais ce que je veux quand je veux comme je veux. Par contre, j'essaie toujours de progresser. Donc si à un moment donné je me perds, de toute façon c'est marqué sur moi, noir sur blanc. Je peux pas, c'est mon ikigai, et comme disent les Japonais, je fonce là-dedans.
Yes. Et avec le recul et l'expérience là depuis 8 ans, est-ce que tu aurais fait les choses autrement? Est-ce que tu aurais fait les choses différemment?
Ouais. Ah ouais. Oh, bien sûr. Putain, j'en ai fait des erreurs. Hein. Ah oui.
Est-ce que ce ne sont pas ces erreurs-là qui ont fait que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui aussi?
Peut-être, franchement, il y en a une. On va dire, de tout ce que je fais, je ne regrette rien. La seule chose que je regrette, c'est ce vol de machine, en fait, parce que ça m'a... Clairement, je me demande toujours pourquoi je me suis fait voler cette machine, parce qu'en gros, ça m'a coûté de l'argent. J'ai remis un crédit dessus. Ça ne m'a pas changé grand-chose. Tu vois, par exemple, le fait de m'être pété un genou en coaching. Derrière, j'ai acheté un Yabodytech. Donc, ça m'a servi à quelque chose. Ce Yabodytech-là m'a permis d'être comptable, etc. Très bien. Le fait de m'être fait virer un peu comme un malpropre, bon, on était 3-4 à 7, c'est viré comme un malpropre de cette salle de coaching, m'a permis de vouloir créer la mienne. Le fait d'avoir les mains qui flambent à un moment donné quand j'ai eu de l'argent m'a fait apprendre à garder de la trésorerie. Voilà. Donc, j'ai eu de l'apprentissage surtout. Sauf sur cette erreur-là. Et en fait, l'erreur, bah,
mais là,
c'est simplement...
Tu pouvais pour rien. Enfin, tu y es pour rien, cette erreur-là.
Oui, non. Tu sais, j'avais laissé la machine dans mon coffre, tu vois.
Ouais.
je l'aurais monté dans mon appart, je ne me serais pas fait voler. Mais bon, c'est pas, comme je dis, ça fait chier dans certains sens, mais bon, c'est que de l'argent. Ça fait prétentieux de dire ça, mais j'ai pas eu de problème. Et derrière, j'ai pu bosser. Et puis surtout,
t'as rebondi.
Voilà, j'ai pu rebondir.
Et c'est quoi ton échec préféré?
Mon échec préféré, dans un certain sens, cette période de galère, mais de galère de ouf, la machine, la blessure, tout ça, et ben en fait, quand je regarde, je suis content, vraiment, parce que je m'en suis sorti et sincèrement, je pensais pas y arriver, je pensais pas que j'avais cette force-là en moi, clairement. À me retrouver à manger comme une espèce de moine la même chose, tu vois, enfin, arriver à des extrêmes.
T'as développé une méthode de régime, du coup, t'as écrit un bouquin, t'as.
Oh putain, ouais, mais tu sais que j'ai perdu, tiens, je crois que j'ai perdu 4-5 kilos, enfin, un truc de ouf, j'avais séché de ouf, quoi. Mais franchement, cette période-là, qui est la somme en fait de plein de petits échecs, qui était vraiment un gros échec, c'était tout à la même période, mais clairement ça m'a apporté beaucoup de choses derrière. La résilience, maintenant je suis quelqu'un de très résilient sur beaucoup de choses, tu vois, le Covid, on fait notre vie en fait. Arrêtez de vous prendre de la tête pour machin, pour truc, trace, fais ton truc, arrête de te préoccuper des conneries et avance et continue à être droit dans ce que tu fais.
Est-ce que tu as... Moi, j'aime beaucoup lire. Est-ce que tu as un ou deux livres à nous partager qui ont beaucoup influencé qui tu es aujourd'hui? Pas forcément dans le coaching pur. Enfin, voilà. Est-ce que tu as un ou deux livres qui t'ont marqué?
J'ai fait un podcast l'année dernière à peu près à cette période. On m'avait posé la même question. Et pour moi, un livre qui est essentiel, c'est les quatre accords de Toltec, qui te permettent en fait d'avoir un cadre dans la façon dont tu te comportes dans ta vie, dont tu es. Et je pense que ça permet en fait de donner des petites billes au niveau de la façon dont on doit se comporter, c'est bien. Enfin, ce livre, en tout cas, m'a pas mal parlé. Et en dernière, c'est un bouquin que j'avais lu il y a 6-7 mois. Comment ça s'appelle ? Les confessions d'un OPS par Hatton, Philippe B. Hatton, un mec qui vient du GIGN en fait, qui est dans les opérationnels, les sauteurs opérationnels, donc ceux qui sautent des hélicos. Et en fait, la vie de ce mec, elle est juste, il a une persévérance, c'est juste dingue, quoi. C'est les mecs, ce qu'ils font, mais c'est pas croyable, quoi. C'est vraiment des surhommes, quoi. On ne s'en rend pas compte parce qu'on ne les voit pas, mais c'est juste dingue. Et donc, ce bouquin, ce gars, ce qu'il a fait, donc ce qui veut dire ce gars-là, mais aussi donc ses collègues, c'est, moi, ça a été une claque parce qu'il te parle de choses concrètes, il te parle de missions qu'ils ont menées. C'est un film. Et voilà. Et ça a été ma plus grande claque. Donc, les quatre accords Toltec, plutôt sur un livre général qui est très inspirant pour beaucoup de domaines. Et moi personnellement, ce qui m'a touché le plus là dans la dernière grande année, c'est ce bouquin là
ok, super, merci. Je lirai parce que je ne connais pas celui-là. Et comme tu fais de la formation et tu as l'occasion aussi de travailler avec d'autres coachs, c'est quoi ta vision du métier, de notre métier? Qu'est-ce que tu pourrais donner du coup comme conseil aux coachs qui nous écoutent, ou quelle est ta vision, toi, des choses dans les années à venir?
Malgré le fait que le digital prenne de plus en plus le pas, c'est sûr, hein, personnellement, je ne faisais pas de coaching, de programme, etc., j'en fais très très peu, et là, j'en ai de plus en plus. Je pense clairement que l'avenir du coaching, et bien c'est l'inverse, c'est le contact humain. Même déjà, on n'a plus de contact tactile avec les gens, tu vois, on n'a plus de contact avec eux, tactile. Alors soit connecter avec cette personne-là au niveau émotionnel, au niveau de ce qu'elle veut, etc., de ses objectifs. Voilà. Mais pas de ses objectifs, je veux perdre du poids, ça, on s'en fout. C'est la croûte, ça, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Et c'est ça, en fait. Pour moi, clairement, un coach, s'il veut réussir, on s'en fout de la technique. On s'en fout qu'il connaisse les méthodes de muscu. J'ai envie de dire, c'est simple, ça. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que ta personne, elle recherche au fond de toi, et le fait que tu sois là pour elle et pour l'aider à ce moment-là. Voilà. Pour moi, c'est ça, c'est ce contact.
Yes. Ouais, je dis souvent qu'il faut passer le cadre. On n'est plus le coach, Georges, de Janine de 18h à 19h, mais il faut pouvoir l'accompagner. Enfin, si on est dans une démarche de vouloir atteindre les résultats avec notre client, on ne peut pas se permettre de l'avoir, je ne sais pas, peut-être que 45 minutes et puis après, tout le reste de la semaine, on s'en fout. Pour moi, l'idée, c'est de l'accompagner, comme tu dis, quoi. C'est clair que ça joue énormément, quoi.
Ouais, c'est ça. Et comme je dis, j'appelle l'ordre, je leur dis, un SMS, ça ne coûte rien. Voilà. Par contre, il faut savoir mettre des cadres. Tu vois, moi, quand j'entre chez moi, mon téléphone, il est en mode avion. Mm-hmm. Voilà. Mais par contre, un SMS, ça peut faire toute la différence. Un coup de téléphone de 30 secondes, tu la rassures la personne et ça fait la différence. Et juste ça, cette petite... Toute petite attention, cette petite touche. Et la personne, en fait, elle se sent... C'est pas une usine, voilà. C'est une personne. Vraie. C'est pas le client numéro 1, le client numéro 2 de la journée. Non, non, pas du tout. Je connais l'historique de la plupart de mes clients. J'en ai qui me racontent des choses qu'ils n'ont jamais racontées à d'autres personnes.
Ouais, tu es un confident, quoi.
Mmh. Ouais, c'est ça, confident. Alors plus parce que moi je vais plutôt conseiller, donc pour ça je l'appelle coaching holistique, tu vois, l'ensemble. Je vais donner des petits conseils en alimentation, mais bon, je suis pas diététicien, même j'y connais strictement que dalle. Mais bon, je connais la base, hein, là, pas de manger de merde, bouge, enfin, manger des légumes, etc. Mais aussi voilà le côté physique et ce côté émotionnel, ce côté voilà pourquoi t'es pas bien. C'est ce que je dis, ce que j'arrête pas de dire quand je forme les gens. Je dis la question la plus importante lorsque vous avez un client, c'est quoi vos objectifs, c'est pourquoi. Mm-hmm. Tout simplement. Pourquoi. Ah, c'est bon, on y est. Et là, j'ai creusé 15 pourquoi et là on est sur la vraie raison.
Ouais, exactement. Et du coup, dernière question. Souvent une question qu'on pose, c'est quoi toi ta meilleure stratégie qui t'a permis d'avoir des clients? Ou est-ce que tu as une stratégie à nous partager?
Ouais, actuellement ma meilleure stratégie, et ça fait la différence, tu sais, sur Google Maps, tu as des avis. Mm-hmm. Ben, moi, je suis deuxième au niveau lyonnais et j'ai 63 avis positifs. Je les compte, hein, 63. Et ça fait la différence, en fait. Clairement, quand t'as quelqu'un qui vient, t'as des coachs, voilà, 5, 10, débarque sur ta page, 63 avis positifs, et ça parle de tout, mais vraiment, enfin, entre ceux qui mettent des petites blagues dessus, donc t'as le côté ambiance, ceux qui vont mettre atteindre les objectifs, ceux qui vont parler, bref, et t'as la masse de monde, imagine 63 personnes qui ont écrit un commentaire positif, qui ont mis les 5 étoiles, et ça... Et moi, c'est ce qui fait la diff. Tous les gens qui m'ont contacté, ils m'ont dit, je vous ai choisi parce que quand j'ai lu tous les commentaires positifs vous concernant, ça m'a rassuré et en fait, ça me donne envie de venir. Et là, la question du prix, elle se pose même plus. Hein.
Ouais. Donc, objectif, les clients, on leur envoie le petit lien pour qu'ils laissent un 5 étoiles et un petit commentaire.
Ah ouais, moi c'est ce que je leur dis. On commence, voilà, j'aime bien commencer par des petits programmes sur 3 mois, tu vois, j'aime bien voilà proposer un petit truc sur 3 mois, ça me permet d'évaluer un peu, etc. Et après, on va partir sur 6 mois, 1 an, etc. J'aime bien 3 mois. Et après 3 mois, je leur dis, tu veux pas me mettre un petit truc là? Il oublie, tu veux pas m'en mettre un? 2 fois, 3 fois, quoi. À un moment donné, je vais te mettre des burpees hein, si tu m'en mets pas. Et bizarrement, hop, il publie.
Ouais, c'est une excellente stratégie. Ouais, surtout que avec Google My Business, forcément Google met en avant celui qui a des avis, donc forcément il pousse on va dire, ta marque auprès des gens qui cherchent un coach ou je ne sais pas ce qu'ils tapent, mais en tout cas, c'est un moyen très simple, entre guillemets, de pouvoir avoir de la visibilité sur Google en termes de référencement, quoi.
C'est ça, c'est-à-dire que maintenant, avec voilà, mon panel de clients, etc., je n'ai pas besoin de faire exploser mon retour parce que j'ai pas envie de passer des heures au travail. C'est pas, j'aime ce que je fais, mais je ne veux pas y passer plus de temps. Mais par contre, ça me permet d'avoir une rotation. Et puis surtout, si je vois que je ne peux pas prendre la personne, eh ben, je vais la recadrer et l'envoyer vers un de mes collègues. Comme ça, je fais la sous-traitance derrière.
Ok, excellent. Excellent, excellent. Bah, merci en tout cas. C'était super inspirant, en tout cas pour moi. J'espère que ceux qui vont écouter cette interview ont pris autant de plaisir. Une dernière petite chose pour clôturer cette interview.
Bah, déjà, je te remercie de m'avoir contacté. Hein, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas échangé. Et donc, c'était surprenant comme message. Et puis, bah, ça fait plaisir parce que quand on a quelqu'un comme toi, voilà, avec l'expérience que tu as dans le domaine qui te demande de venir faire une interview comme ça, moi, en tout cas, ça me fait plaisir et je suis honoré d'avoir pu participer à ceci.
Eh ben, c'était cool, plaisir partagé en tout cas. Merci Loïc, je te souhaite plein de belles choses et puis on verra dans quelques années des histoires encore croustillantes. Donc 8 ans, on fera peut-être un podcast dans 16 ans du coup. Tu auras peut-être des cheveux, peut-être ?
Non, je reste comme ça, moi. Pas de souci.
En tout cas, merci à toi. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre également un petit 5 étoiles. Je ne sais pas où vous allez regarder cette interview, mais là, par rapport à là où vous êtes, mettez un petit 5 étoiles, un petit commentaire. N'hésitez pas à poser des questions à Loïc, qui sera un plaisir de répondre. En tout cas, merci à tous. Et puis, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Allez, salut.
Bye bye.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.